Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Oui, on va me voir maquiller. Je suis désolée, j'ai pas fini. Non mais attends, on m'engueule dans l'oreillette. Il est 19h01. L'info, Simon Guilla.
Et vous terminez pendant ce temps-là.
Oui.
Allez-y. Bonsoir Christine et bonsoir à tous. À Grenoble, un homme de 20 ans est activement recherché par la police, suspecté d'être l'auteur de plusieurs viols et agressions sexuelles. L'individu a été aperçu entièrement vêtu de noir et circulant sur une trottinette. Les faits qui lui sont reprochés ont été commis entre le 22 janvier et le 16 mars. Plus de 170 Français et 70 ressortissants étrangers ont été évacués d'Haïti à bord d'hélicoptères. Il s'agit de personnes en état de vulnérabilité, indique le Quai d'Orsay. Le pays est plongé dans le chaos en proie à l'ultra-violence des gangs qui prospèrent sur place. Et puis le parquet espagnol demande 2 ans et demi de prison contre Luis Rubiales. L'ancien président de la Fédération française de espagnol de football est poursuivi pour agression sexuelle après avoir embrassé par surprise une joueuse de l'équipe d'Espagne juste après le sacre de la Roja en Coupe du Monde, cher Christine.
Merci beaucoup Simon Guilla. Au sommaire ce soir, les responsables de l'émission Quotidien avec Yann Barthès ont assumé ne pas inviter de membres du RN. Auditionnés ce matin en commission d'enquête parlementaire, ils expliquent que le temps de parole est pourtant parfaitement respecté. L'équipe de Quotidien rappelle qu'ils n'ont eu aucun dérapage, aucune procédure de sanction, aucune mise en demeure de l'ARCOM. Sont-ils exemplaires ? Ou bénéficie-t-il d'une certaine impunité ? L'édito de Mathieu Bocquet. Notre ministre des Armées a remis une pièce dans la machine de l'engrenage face à la guerre. Dans le cadre de l'économie de guerre, Sébastien Lecornu s'est dit prêt à recourir à des réquisitions. Si les cadences et les délais de production n'étaient pas tenus par les industriels, en quoi est-ce une menace pour les industriels de l'armement français ? Le moment est-il venu pour la France de changer d'échelle et de modèle de production en matière d'armement ? Que penser de cette course à l'armement ? L'analyse de Guillaume Bigot. Lors de l'audition des équipes de Quotidien, il y a une remarque qui a interpellé Marc Menon. On fait partie des émissions qui ont reçu le plus de transgenres dans le paysage audiovisuel, a déclaré un des membres de l'équipe. En quoi sommes-nous dans l'information, le divertissement ou l'idéologie ? Le regard de Marc Menon. L'élève à l'origine du départ du proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris, qui avait refusé de retirer son voile, se dit désolé et condamne les menaces de mort, apprend-on ce soir. Il est clair qu'un cap a été franchi dans l'éducation nationale depuis que le proviseur du lycée a quitté ses fonctions. La ministre de l'Éducation nationale, souvenez-vous, avait promis pourtant un bouclier de protection qui s'est avéré inefficace. Le proviseur a été reçu par le Premier ministre Gabriel Attal cet après-midi. Qu'en est-il ? Pourquoi le choc est-il si puissant avec cet échec face à la loi ? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis, au premier jour de sa visite d'État au Brésil, Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur au chef amérindien Raoni, icône de la défense de la forêt amazonienne et des peuples autochtones. Cette séquence a beaucoup fait réagir. Pourquoi ? Le bilan carbone du président ? La tenue vestimentaire du chef de l'État ? Le paradoxe entre la guerre qui se rapproche avec la Russie et l'exotisme de la séquence ? Emmanuel Macron est-il en campagne internationale ? L'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires ce soir. Guillaume Bigot est avec nous. C'est parti. Yann Barthès a été auditionné devant la commission d'enquête aujourd'hui.
En bref, je suis fier de rendre, je l'espère, ne serait-ce qu'un peu les téléspectateurs curieux, curieux comme nous le sommes. Et il me manque la fin. Hop. Ah, il me manque la fin.
Vous en faites pas, ça nous arrive aussi. Hein.
Bah oui, j'imagine. C'est con, ça partait bien. Donc voilà, je voulais juste rappeler que malgré tout ça, quotidien, c'est zéro dérapage, zéro procédure de sanction, zéro amende, zéro mise en demeure de l'ARCOM, zéro mise en garde et aucune procédure en diffamation. Merci de m'avoir écouté.
C'était une audience très attendue, Mathieu Bock-Côté. Quelques heures plus tard, l'heure est venue du décryptage. Que retenir de ce passage, selon vous ?
Alors, une chose première, on se demandait tous, hein, c'est une question qu'on se posait. Yann Barthès, qu'est-ce que c'est Yann Barthès sans oreillette ? Yann Barthès sans oreillette et sans fiche. Qu'est-ce que ça donne Yann Barthès laissé à lui-même ? Il est arrivé, il était sûr de lui. Hein. Il est arrivé, bon, il faut dire que c'est un homme qui est toujours très élégant à l'écran, mais pour témoigner de son respect pour les parlementaires aujourd'hui...
Je peux vous interrompre avant de commencer ?
Oui.
Ils vous lynchent tout le temps hein, dans leur émission, donc faites attention, vous serez lynchés.
Ah mais j'en ai aucun doute, mais pour me lyncher, il va avoir besoin de tous...
Ils sont juste en dessous de nous.
Mais je note une chose, pour me lyncher, il va avoir besoin de tous ceux qui écriront les petites blagues qu'il utilisera pour nous lyncher, parce que laissé à lui-même, il ne peut pas lyncher, il est muet. Parce que revenons-y un instant, Yann Barthès donc se présente normalement devant son émission, toujours très correctement vêtu, et là devant les parlementaires, devant l'Assemblée nationale, il se présente habillé à la manière de SDF ou en tenue chalet pour nous montrer tout le respect qu'il a pour l'institution. Il arrive avec une déclaration, il est très sûr, hein. Il attaque, il multiplie les tirs, il multiplie les petites saillies, il nous montre à quel point il est sûr de lui. Yann Barthès, avec un texte, c'est du solide. Et il manque soudainement, on l'a vu, une page. Et là, soudainement, Yann Barthès est désorienté. Yann Barthès ne sait plus quoi dire. On voudrait bien lui dire à l'oreillette, mais il n'y a pas d'oreillette. On voudrait bien lui confier une fiche de plus, mais il a perdu ses fiches. Donc, que se passe-t-il? Yann Barthès est presque muet. Les quelques dernières lignes qu'il pourrait prononcer, s'il les connaissait par cœur, même pas s'il les savait de lui-même, il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il panique, il cherche ses fiches. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on voit? Yann Barthès sans oreillette ni fiche. Yann Barthès, c'est muet. Et soudainement, il y a un petit côté caliméro. J'y reviendrai. C'est vraiment trop injuste, tant ce n'est pas mes fiches. Et là, qu'est-ce qu'on voit avec cette scène assez gênante chez lui? C'est que laissé à lui-même, c'est une forme, c'est une marionnette, c'est un pantin. C'est quelqu'un qui parle lorsqu'on le fait parler, mais lorsqu'il parle par lui-même, il ne dit pas grand-chose. Premier élément qui me semble assez intéressant, donc globalement, la bête défardée, hein, l'homme sans ses beaux atours, était finalement une bête assez peu terrifiante. On aimerait l'inviter en débat, ce serait intéressant de voir dans quelle mesure il est capable de tenir pendant plus de 15 secondes sans une fiche ou sans quelqu'un pour lui chuchoter ce qu'il doit penser. Je laisse ça de côté, j'ai dit ça en tout respect, j'ai simplement décrit la scène qu'on a eue devant nous. Ensuite, deuxième temps, et c'est assez intéressant, de cette séance à l'Assemblée, alors là, les patrons ont pris le relais. Les patrons qui, ça, ont dit, en gros, ils ont dit, bon, fini, arrête, c'est terminé, merci. Et là, ils ont, je note, soit dit en passant, que lorsque Barthès voulait intervenir à nouveau, il tendait le doigt comme ça, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que je peux dire quelque chose? Puis on voit, à un moment donné, le regard d'un de ses patrons qui le regarde sur le mode, non, il ne va pas encore parler, celui-là. Quoi qu'il en soit, j'y reviens, les patrons, sur l'essentiel, ont un discours, eux, beaucoup plus sobre.
Il y a une petite phrase de Ara Aprikian qui m'a beaucoup plu, je vais vous la montrer en fin de séquence au courant d'émission.
Alors, beaucoup plus sobre, beaucoup plus calme, ils disent qu'ils respectent les obligations, et enfin, ils nous disent finalement, nous ne savons pas pourquoi nous sommes là, ils défient à quelques reprises, soit dit en passant, les parlementaires, en disant, nous sommes ici parce que le RNFN nous a invités, et c'est le président de la séance qui est obligé de les rappeler à l'ordre en disant, non, c'est l'Assemblée qui vous invite. Vous n'êtes pas ici pour régler vos comptes avec des parlementaires que vous rencontrez pour la première fois parce que vous ne les invitez jamais. Et vous n'êtes pas ici pour régler vos comptes personnellement. Répondez, s'il vous plaît, aux parlementaires. Et là, on voit qu'ils sont un peu dérangés quand même dans cette équipe de fine lame. J'ajoute une chose qui est intéressante, c'est le débat sur l'invitation au nom du RN. Et là, soyons honnêtes, on est passé à côté de l'événement. C'est-à-dire les questions qui auraient dû être posées sur pourquoi refusez-vous systématiquement d'inviter les représentants d'un parti qui fait 42% à la présidentielle, qui a plusieurs dizaines de députés, pourquoi refusez-vous d'inviter? Et là, il n'y a pas de réponse, parce qu'il n'y a pas de question. Parce que la question n'est pas posée même par les gens du RN qui étaient un peu absents du rendez-vous, ce qui est toujours un problème puisqu'ils étaient à l'origine du rendez-vous. Donc là, ces gens-là, les gens du RN, n'ont pas posé les questions, donc on s'est blindé chez les gens de quotidien sur le mode, vous savez, on respecte les obligations, l'obligation légale, stricte, nous nous y tenons, elle ne nous oblige pas à recevoir des parlementaires, donc nous c'est la loi, strictement la loi, seulement la loi. Ce à quoi on pourrait répondre que c'est news, on respecte strictement la loi. Et en plus, nous, on invite tout le monde et on a les exigences du pluralisme. Mais quand vient le temps de réécrire la loi, c'est pas par quotidien qu'on passe. C'est étrange, peut-être, est-ce qu'il y a un biais quelque part dans la société?
Ils ont expliqué que c'est par des magnétos, effectivement, qui mettaient le Rassemblement national en invitant.
Et ils précisent, ils tiennent à dire qu'ils n'ont pas d'hostilité particulière envers quelque courant politique que ce soit. C'est assez intéressant. Ça nous avait un peu échappé quand même. Cela dit, il y a quelque chose, il y a le grand basculement, parce que finalement, il y a eu les reproches inattendus qui ont été faits à Quotidien dans le cadre de cette séance, lorsque finalement, on a cru comprendre que Quotidien, le vrai problème, en fait, c'est que c'est une émission qui basculait à l'extrême droite. C'est une émission qui est coupable de vrais tares idéologiques. C'est l'émission qui embrasse la bête réactionnaire sur la bouche. Ça, je ne l'avais pas vu venir.
Mais comment cette inversion est-elle possible, Mathieu Bosco-Côté? De quoi vous parlez, justement, lorsque vous dites...
Deux scènes oui. Merveilleuses. La scène 1, où on explique... Elisabeth Rodinesco, qui est psychanalyste, très critiquable par ailleurs, mais quoi qu'il en soit, elle était invitée à Quotidien, et elle parle sur la question trans d'une épidémie de trans aujourd'hui. Le terme lui appartient, nous ne le revendiquons pas, mais elle utilise cette formule. Là, Barthès... À ce moment-là, en temps réel, avait dit, vous savez, vous allez peut-être un peu loin. Je devine qu'on lui avait soufflé à l'oreillette. Hein? On a une oreillette, on sait quoi répondre. Mais à ce moment, ce qui est intéressant, c'est que les parlementaires, LFI, disent, vous ne trouvez pas que vous n'en avez pas fait assez? En fait, est-ce que vous n'avez pas été coupable, en fait, de complaisance pour la transphobie? Ce ne sont pas leurs mots, mais c'est ce que ça voulait dire. Ce à quoi un des hommes qui était présent, Marc nous en parlera dans un instant, dit non, on est ceux qui avons reçu le plus de trans sur notre plateau, même le fameux enfant trans que nous avons reçu, n'est-ce pas la preuve que nous sommes moralement bons? Mais, premier élément, nos amis de Quotidien se sont fait coincer pour transphobie. De même que pour racisme. Pourquoi? Ça, c'est intéressant, parce qu'apparemment, Nicolas Sarkozy, dans une phrase qui aurait été tirée de son contexte, aurait eu des propos qui pourraient laisser croire qu'il était potentiellement raciste. Et vous, Barthès, vous n'êtes pas complice de ce racisme potentiellement? C'est la question qui était posée à sa manière. Et là, Yann Barthès, avec une réponse étonnante, nous dit, vous savez, c'est une phrase qui était prise hors contexte. Est-ce qu'on m'explique ici que Quotidien décide de s'en prendre à des phrases prises hors contexte? C'est quand même du génie. Si Quotidien ne se spécialise pas dans le hors contexte, que fait Quotidien? Mais il va encore plus loin.
Donc, si j'ai bien compris, il s'excuse en disant que la phrase a été prise hors contexte, alors que c'est l'ADN même de son émission.
Ah, c'est quand même du génie. Et plus encore, lorsqu'on lui demande, vous utilisez beaucoup les micro-perches. Vous savez, cette manière d'espionner les gens en public avec le micro-perche. Et donc, c'est la meilleure manière d'avoir des phrases hors contexte. Et là, il dit, c'est une méthode de journalisme parmi d'autres. Donc, il légitime lui-même les techniques qui permettent d'avoir des phrases hors contexte. Mais au moment de se défendre sur Sarkozy, il nous dit, c'est une phrase hors contexte. C'est du génie. Alors, j'aimerais simplement rappeler une chose qui me semble importante. Je me permets un petit détour par l'époque du Petit Journal. J'en ai déjà parlé une fois, mais je tiens à le rappeler parce que c'est absolument fondamental.
Dites-nous.
C'est à l'époque, donc c'est avant Quotidien, mais on pourrait dire c'est pré-Quotidien. En 2016, Marine Le Pen vient au Québec. Je vais prendre à raconter l'anecdote parce que ça touche la France directement. Elle arrive au Québec et elle est interviewée par une journaliste de chez nous. Ça dure une demi-heure environ. Et honnêtement, tous les Québécois qui ont vu la scène vous le diront, c'était une catastrophe pour la journaliste. Elle était déchiquetée dans le débat. Marine Le Pen l'avait trucidée rhétoriquement, disons ça comme ça. C'est un effondrement. Elle n'était pas intellectuellement au niveau, la journaliste. Tout le monde, même les adversaires les plus résolus de Marine Le Pen disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé là? On a eu l'air des fous. La leader de l'extrême droite était capable de terrasser notre puissante journaliste. On vient de se faire humilier à l'international. » Le Petit Journal, à l'époque, prend l'entretien, le découpe, le monte et ne conserve que les questions de la journaliste sans donner les réponses de Marine Le Pen, diffuse cet entretien reconstruit et là, ça devient Marine Le Pen se fait terrasser par une journaliste québécoise qui, elle, n'hésite pas à l'affronter. Et plus encore, ce petit segment a circulé dans la presse française ensuite, dans des titres de qualité, des titres de référence, qui reprenaient ça en disant « Marine Le Pen passe un très mauvais moment au Québec ». Donc là, on était témoin de la fabrication en direct d'une fake news. Tous les Québécois qui regardaient ça, je vais me permettre de citer juste un instant d'ailleurs un journal de chez nous qui commente la scène.
Dites-nous.
L'émission française satirique Le Petit Journal sur Canal+, a réduit cette longue entrevue de 30 minutes à un montage de 2 minutes qui n'est pas du tout représentatif de ce qui s'est passé. Ils ont totalement charcuté l'entrevue d'origine, mis bout à bout des questions de l'animatrice et carrément supprimé des réponses souvent savoureuses de Le Pen pour qu'elles paraissent chaos alors que c'est le contraire qui s'est produit. Ça, c'est la méthode du petit journal à l'époque. La question que je pose, c'est dans quelle mesure est-ce encore la méthode de nos amis de quotidien? Dans les circonstances, je crois que la question se pose. On était devant une fabrication de fake news explicite. Hein, le côté divertissement ne justifie pas tout. Quand on décide de fabriquer une fake news, donc ce serait bien que l'on garde à l'esprit que les méthodes de cette équipe s'en trouvent ici, en fait, un triste exemple. Alors, de ce point, mais on n'en aura pas parlé, évidemment, parce que l'enjeu, c'était...
Il y avait aucune question sur la fabrication de fake news.
Mais en fait, on nous explique qu'ils en étaient victimes eux-mêmes sur la séquence Sarko, parce qu'ils ont été victimes d'une phrase hors contexte. Yann Barthès, pris dans une question de hors contexte, c'était merveilleux.
On a beaucoup parlé, Mathieu Bock-Côté, cela dit, dans cette commission, de la confusion entre l'information et le divertissement. Ce qui vous amène à vouloir nous dire, vous, quelques mots sur la ligne de Guillaume Meurice. Ça fait quelque temps que vous nous en parlez en coulisses.
Oui, sachez que nous, à Face à l'info, cher public, on se sacrifie pour vous. On lit vraiment le livre de Guillaume Meurice, page à page, on le note. Et c'est absolument... Donc, c'est Guillaume Meurice dans l'oreille du cyclone. Et je tiens à vous en parler parce que j'ai l'impression d'être devant ce que j'appellerais la gauche Calimero, encore une fois. C'est vraiment trop injuste. En quoi c'est injuste pour ce pauvre Meurice? On se souvient de sa blague ratée, pour le dire poliment, sur le mode Netanyahou, nazi, sans prépuce. Bon, on s'en souvient de cette scène, on en a beaucoup parlé. Alors, ça donne une tempête médiatique de quelques jours, quelques semaines, et puis ensuite, c'est terminé, on n'en parlait plus, je précise, soit dit en passant, plus personne ne parle de cela. Mais ce pauvre Guillaume Meurice, qui connaît donc une tempête médiatique de quelques jours, ils sont tellement pas habitués à gauche à subir des tempêtes médiatiques lorsqu'ils tiennent des propos outranciers, que lorsque ça leur arrive, ils écrivent un livre de plus de 100, je crois 150 pages, au-delà de ça, 170, pour se plaindre d'avoir subi les conséquences, les conséquences médiatiques de leurs propos pendant quelques jours. Donc, dans ce livre, qu'est-ce qu'il nous dit encore une fois? On m'a cité hors contexte. Il explique comment il y a la fabrication d'une fake news autour de lui. Il dit « C'est pas ce que j'ai dit » et puis on l'inscrit dans un contexte qui n'est pas le mien. Comment ose-t-on me faire cela? Mais, cher ami, c'est la méthode de la gauche médiatique depuis très longtemps. Il se demande, c'est assez étonnant, qui a le droit de décider ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas. Là, il se questionne sur le sens de l'humour. Qui est en droit de définir ce qui est humoristique et ce qui ne l'est pas? Donc là, il se pose la question, qui fixe les lignes de la respectabilité humoristique? C'est intéressant, il pourrait commencer à se demander si ça touche d'autres personnes. Il se demande, soit dit en passant, si les forces de l'ordre sont à ce point tranquilles dans ce pays qu'ils peuvent passer du temps à enquêter sur la blague d'un humoriste plutôt que de se présenter pour défendre les gens qui ont de vrais problèmes de sécurité. Je le cite, « Je conseille aux femmes victimes de violences conjugales de dire que leur conjoint a fait une blague sur Netanyahou. Il devrait être entendu par la police plus rapidement. » Autrement dit, il nous explique que si on peut avoir la police judiciaire chez soi pour délit d'opinion. Il nous explique, autrement dit, que la police de la pensée, le délit d'opinion, c'est mal. Il a tout à fait raison, mais de ce point de vue, je propose de fonder une association, Meurice, Zemmour, Renaud Camus et d'autres, parce que tous, par ailleurs, sont la cible de procès de harcèlement judiciaire, auquel fois des procès légitimes, peut-être. Mais sur le fond des choses, c'est la dynamique du harcèlement judiciaire pour délit d'opinion, pour propos qui ont déplu à certains et qui ont instrumentalisé ensuite les tribunaux ou la police, ou les forces de l'ordre, pour être capable de sanctionner ceux qui ont connu un délit d'opinion. C'est tout à fait fascinant, mais lui, hein, une tempête, un livre, et tout le système qu'il présente comme une victime. Pauvre Guillaume Meurice. Je devine qu'il est très ami avec Barthès.
Merci pour votre regard. On reviendra dans un instant, et j'ai envie de vous entendre avec Marmenant, toujours sur cette audition, mais faisons un tour au niveau de ce qui se passe aux portes de la guerre, parce que pour la première fois, Guillaume Bigot, depuis le début de la guerre en Ukraine, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a déclaré que la France n'excluait pas de procéder à des réquisitions dans l'industrie pour passer en économie de guerre. Cette réquisition est-elle inquiétante ou nécessaire?
Alors, elle peut sembler inquiétante. Elle peut sembler inquiétante parce que le terme est introduit par la loi de programmation militaire que le gouvernement a fait passer en août dernier, qui est la loi de programmation 2024-2030, et dans laquelle on peut lire qu'en cas de menace, la réquisition de toute personne physique ou morale, donc des entreprises ou des citoyens, et de tous les biens et services nécessaires, pourraient parer à cette menace, peuvent être décidées en Conseil des ministres. Donc on se dit que c'est très inquiétant. Mais en fait, ce sont des termes qu'on trouvait dans le Code de la Défense nationale. Il n'y a rien de nouveau. Le principe de la réquisition, c'est un très vieux principe chez nous. Ce qui est plus inquiétant, par contre, c'est ce dont on a parlé ici, c'est-à-dire l'accord qui a été passé entre la France et l'Ukraine, accord de sécurité à la demande des États-Unis, et qui est un moyen un peu de faire rentrer par une espèce de soupirail l'Ukraine dans l'OTAN quand même par la porte dérobée. Les États-Unis ont demandé aux pays de l'OTAN de faire adopter cet accord. L'Allemagne l'a passé, la France l'a passé, etc. Donc en application des engagements internationaux, oui, il pourrait y avoir réquisition. Ça peut être assez inquiétant. Mais en répondant à votre deuxième question, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers une réquisition et dans quel contexte le ministre Lecornu a parlé de réquisition? On peut quand même rassurer un peu nos téléspectateurs. On est très loin d'une guerre avec la Russie en réalité, contrairement aux termes un peu sensationnalistes. Et on est encore plus loin de ce qu'on pourrait appeler l'économie de guerre, ou ce que les historiens et les spécialistes de l'économie appellent l'économie de guerre. Alors d'abord, le contexte. En fait, l'État...
J'ai vraiment besoin que vous nous rassuriez. Hein, parce que moi, j'ai vraiment... Non, pardonnez-moi. Hein,
oui, bien sûr.
J'ai vraiment l'impression qu'on est dans une sorte de course à l'armement très, très, très inquiétante. Mais je vous écoute.
Entendu. Non, mais je comprends.
Non, mais
c'est vrai. Non, mais c'est fait pour ça. En fait, c'est un terme, la réquisition, on va vous réquisitionner, on va aller vous chercher chez vous, on vous envoie sur le front, dans le Donbass, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le fait que l'État a passé commande de 200 missiles antiaériens, missiles Aster, enfin peu importe les missiles, à une entreprise franco-italienne d'armement MBDA, et que ces 200 missiles n'ont pas été produits dans les temps. Et là, c'est typique du macronisme. Au lieu de faire mea culpa, c'est ça où c'est les questions en fait. L'État n'a pas payé suffisamment tôt. L'État n'a pas assuré à l'entreprise privée en question une visibilité suffisante. Quand on vous dit doubler ou tripler votre production, bah attendez, c'est une demande ponctuelle que vous avez ou c'est quelque chose sur 10 ans qui va se produire? L'État n'a pas fait son travail, donc évidemment ils n'ont pas produit en quantité suffisante et c'est normal. Ils doivent être rentables ces gens-là. En plus, il fallait absolument que ce soit une entreprise franco-italienne pour des raisons idéologiques Europe, etc. Donc ça allonge la ligne de production, ça allonge les délais et ce sont d'excellents missiles, mais ce sont des missiles qui étaient faits pour l'exportation, ce ne sont pas des missiles de compétition, ce ne sont pas des missiles qui sont fabriqués à produire dans une quantité industrielle. Donc maintenant, évidemment, on dit réquisition, économie de guerre. D'ailleurs, le président nous parle de l'économie de guerre depuis, je crois, le mois de juin 2022. Mais il n'y a pas le début du commencement d'une économie de guerre. Soit on se moque des gens, soit le terme a un sens. Le terme d'économie de guerre, oui, il a eu un sens en France. Alors, en 1918, la France, elle produisait 300 000 obus par jour. Pourquoi? Parce que c'est ça l'économie de guerre. Là, il n'y a plus de Renault, ne produit plus de voitures. Renault, on lui dit, produit des bombes. Maintenant, tu produis des bombes. Tout le monde produit des bombes. Vous produisiez des fourchettes? Non, produisiez des bombes. Tout le monde produit des bombes. C'est ça l'économie de guerre. C'est une question de vie ou de mort. Là, c'est une énorme plaisanterie, en fait. C'est pas du tout une économie de guerre. L'État n'est même pas en mesure de livrer des petits engagements microscopiques faits à l'Ukraine. Et on nous parle de réquisition d'économie de guerre. La belle blague, en réalité. La belle blague.
Pardon. J'attendais justement pour aider l'Ukraine à gagner face à la Russie, Guillaume Bigot. Est-ce que le moment n'est pas venu là pour la France et pour l'Europe, je disais en titre tout à l'heure, de changer d'échelle et de modèle de production en matière d'armement?
Si on veut empêcher, comme on le dit tout le temps, la Russie de gagner, oui, c'est ce qu'il faut faire. C'est sûr que c'est ce qu'il faut faire. Moi, je pense, en essayant de ne pas prendre du tout parti dans cette question, mais en essayant d'analyser les données, etc., qui sont disponibles, et en mobilisant mes souvenirs d'économie, je ne vois pas comment c'est possible, là, de la manière dont on s'est engagé. Pourquoi? Prenons l'exemple des obus. Avec l'artillerie, les obus, ça a une importance considérable dans cette guerre, mais on pourrait prendre tous les types d'armes. On ne va pas le faire, c'est trop long. La question des obus. La France a réussi à doubler sa production. C'est déjà énorme. Passer de 15 000 obus par an à 30 000 obus par an. 30 000 obus par an, souvenez-vous ce que je vous disais en 1918. Hein, 300 000 par jour, pas 30 000 obus par an. Ça montre bien le différentiel. Quand on est au bord de l'abîme et que c'est une question de vie ou de mort ou que c'est vraiment pour faire de la communication, de la politique politicienne, des enjeux internationaux, etc. Et là, on nous dit qu'on est passé à 30 000 par an, on va passer à 60 000 par an. Moi, je pense qu'on n'y arrivera pas. Ou que ça va être, en tout cas, si on y arrive, ça va être extrêmement difficile. Pourquoi? C'est un peu comme les médicaments. C'est parce qu'il faut qu'on change complètement de logique de production. On dit oui, réarmement des médicaments. Mais il n'y a aucun réarmement des médicaments. Les médicaments, ils sont faits en Inde ou en Chine et on les met sous blister ici et on dit ça y est, on a réarmé au plan des médicaments. En fait, pour produire des obus, par exemple, on n'a plus de poudre. On a décidé, pour faire des économies, le marché, l'Europe, etc., qu'on allait acheter de la poudre aux Allemands. Donc on n'en a plus. Mais attention, pour produire de la poudre et pour produire des obus d'ailleurs, il faut des matériaux, des matières premières chimiques qu'on n'a pas chez nous. Il faut du nitrocellulaire qu'on n'a pas chez nous. D'ailleurs, on en importait de Chine, par exemple. Il faut de l'acier. Il faut de la main-d'œuvre spécialisée, etc. On n'a plus tout ça. On ne sait plus le faire, en fait.
Vous êtes en train de m'inquiéter, là, parce que là, je ne comprends pas. Donc, l'exemple des obus montre que la France ne pèse pas dans ce conflit. On marque une pause. On revient sur ce sujet. On va revenir aussi sur l'édition de Quotidien. Avec vous, Charlotte Dornelas, le sujet du jour avec la jeune fille qui avait refusé d'enlever son voile, qui s'excuse en quelque sorte. Oh, on va essayer de comprendre tout ça. Il n'empêche que le proviseur, il n'est pas là. Il n'est plus là. Il a quitté ses fonctions. Rien ne va plus. On marque une pause. À tout de suite. Tu te crois où, là ?
En bref, je suis fier de rendre, je l'espère, ne serait-ce qu'un peu, les téléspectateurs curieux, curieux comme nous le sommes. Et il me manque la fin. Hop. Ah, il me manque la fin.
Vous en faites pas, ça nous arrive aussi. Hein.
Bah oui, j'imagine. C'est con, ça partait bien. Donc voilà, je voulais juste rappeler que malgré tout ça, quotidien, c'est zéro dérapage, zéro procédure de sanction, zéro amende, zéro mise en demeure de l'ARCOM, zéro mise en garde et aucune procédure en diffamation. Merci de m'avoir écouté.
On en parle dans un instant avec vous, mon cher Marc. On reviendra sur cette audition. On parlait alors...
Il paraît qu'on entend... fascinant. Hein,
on parlera tout à l'heure. Attention, on va faire un tour de table juste un instant. Et je m'excuse parce qu'on a entendu que j'ai dit « tu te crois où ?» Là, c'était à Guillaume Bigot. Avant la pub.
Comme quoi, ils savent maintenant nos amis téléspectateurs. Non, mais ça rigole pas.
Oui, voilà, parce que hors antenne, c'est vrai que Guillaume Bigot, depuis le début de l'émission, il se maquille, il se regarde dans le machin, il boit de l'eau et tout. Mais on vous, les téléspectateurs, ils ne vous voient pas, mais je dis. Donc, tu te crois où, là, mon Guillaume ?
Donc, je ne bois plus d'eau. Très bien.
Mais non, je taquine. Vous savez qu'on s'aime beaucoup ici. Question concrète. On était dans cette économie de guerre avec le ministre des Armées. Vous étiez en train de nous expliquer, à notre grande surprise, que l'exemple des obus montre que la France ne pèse pas dans ce conflit. Pourquoi ?
Écoutez, le dernier rapport de la CIA évalue la production d'obus annuelle de l'Ukraine à 2,5 millions. Donc là, si on arrive à doubler encore, on arrivera à 60 000. 60 000 versus 2,5 millions. Mais si tous les Européens s'y mettaient, si tous les Américains s'y mettaient, ensemble, tous ensemble, en 2025... on arriverait péniblement à 1 million d'obus. Mais entre-temps, les Russes, ils seraient passés à 3 millions, voire 3 millions et demi. Vous comprenez ? Donc c'est pour ça qu'il y a une course qui est assez irrattrapable. En fait, pourquoi ? Parce que la logique de production d'armement des Occidentaux, c'est une logique que certains économistes appellent du plaqué or. C'est-à-dire qu'on fabrique quasiment des prototypes, on fabrique des armes les plus sophistiquées, les meilleures du marché pour l'exportation, en petite quantité. Sauf qu'elles s'enrayent très facilement, elles se réparent très difficilement... elles coûtent un pognon de dingue, comme dit l'autre, et elles ne sont pas faites pour être utilisées en très grande quantité. Et il y a une loi mathématique qui s'appelle la loi de Manchester, qui avait été calculée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, pour montrer qu'il y a un ratio, en fait, entre la quantité et la qualité des armements qu'on utilise. Pour gagner une guerre de haute intensité, qu'est-ce qu'il faut ? La Russie, contre l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, a gagné non pas parce qu'elle avait les meilleurs chars, les chars allemands étaient très supérieurs aux chars russes, mais parce que la Russie en produisait en quantité absolument astronomique. Les chars étaient très robustes, donc ils étaient faciles à réparer, ils coûtaient très peu cher. Et en fait, tout ce qui se passe, c'est ça. Et c'est absolument irrattrapable. En fait, ce qu'on est en train de payer, c'est la désindustrialisation, les délocalisations et la volonté de produire des armements, disons, très sophistiqués. Donc on n'est pas du tout formaté pour gagner cette guerre. Donc c'est d'une certaine façon, quand on réfléchit un peu au problème, on se rend compte que c'est hors sujet. C'est évidemment que de la com, qu'un numéro de claquette, cette histoire de « on va gagner la guerre contre la Russie ». Bien sûr que non.
Alors, n'est-ce pas une bonne idée, mon cher Guillaume Bigot, de stimuler justement la production industrielle d'armement pour soutenir l'économie française et pour renforcer notre base industrielle de défense ?
Il y a un autre argument en plus, c'est que les Russes, si on parle de l'économie européenne, l'économie américaine, c'est un peu différent. Mais l'économie, européenne, elle est en récession. Elle est vraiment en récession. Notamment le moteur de l'économie européenne qui est l'Allemagne est en récession. La Russie caracole à 3,3% de croissance. On a 115% d'endettement par exemple de notre PIB. La Russie a 22% d'endettement du PIB. Donc la Russie, ils en ont encore sous le pied si vous voulez. Nous, on n'en peut plus, on en peut mais on veut continuer. Et donc en apparence, on peut se dire oui, c'est bien de stimuler. Moi, je suis keynésien, donc je pense que c'est une bonne idée quand il y a une récession de relancer l'activité économique, produire des armes, même si personne va nous les acheter finalement, c'est quand même augmenter la production, augmenter le PIB. Et comme en plus en France, on a un énorme problème qui est qu'on a trop de consommation par rapport à la production, stimuler la production, toutes choses égales par ailleurs, c'est bon. Keynes disait, il vaut mieux en cas de récession et de crise, demander aux chômeurs de creuser des trous et de les reboucher plutôt que de ne rien faire. Donc ça pourrait être une bonne idée, sauf que c'est absolument contradictoire avec tout le reste de la politique économique. Puisque la Banque Centrale Européenne élève les taux, donc ce qu'on va donner par la main droite, on va le reprendre par la main gauche, parce que d'un côté on dit, ah ben, on y va, on produit de l'armement, des milliards pour une guerre perdue d'avance, alors que par ailleurs on veut réduire les dépenses, voire même demain augmenter les impôts, mais ça se mélange là-haut chez M. Le Maire en réalité. Donc là, il y a un énorme problème, c'est que c'est totalement, mais totalement contradictoire. Sans parler d'un problème d'acceptabilité sociale, énorme, énorme. Parce qu'on nous explique qu'il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, il n'y a plus d'argent pour l'école, il va falloir faire des économies. Il n'y a plus d'argent pour le logement, il n'y a même plus d'argent, on en parlait sur ce plateau, pour réparer les ponts, par exemple, en France, qui s'écroulent, les routes. Mais par contre, de l'argent pour une guerre qui est perdue à l'avance, des milliards, là, il y en a. Mais ça pose un énorme problème d'acceptabilité sociale. Évidemment, c'est très, très étrange. Ensuite, ce qu'on pourrait dire, c'est que oui, on pourrait dire c'est bien de reconstituer la filière poudre, de se redonner des moyens de produire des armements de manière plus autonome. Parfait, parfait. Mais en réalité, est-ce que ce sont nos besoins de défense de manière stratégique ? Nous sommes une puissance nucléaire. Faire une guerre conventionnelle contre la Russie, c'est pas du tout un horizon crédible. En revanche, c'est exactement comme pendant le Covid, on nous a dit le cancer c'est fini, les maladies cardiovasculaires c'est fini, il n'y a que le coronavirus. Donc là on est en train de rebasculer tout en mode guerre conventionnelle contre la Russie, qu'on va perdre et qu'on ne livrera jamais. C'est absurde.
Excellente analyse mon cher Guillaume Bigot, et vous êtes bien à votre
place. J'ai le droit de boire de l'eau.
Vous avez le droit de boire de l'eau, de vous maquiller, de regarder votre cravate, tout ce que vous voulez. Je ne vous ferai plus de remarques, je vous adore. En plus la chronique était top. Il y a, lors de l'audition, comme d'habitude... Lors de l'audition des équipes de Quotidien, il y a une remarque à interpeller Marc Menant. Écoutez-la.
S'agissant de la question de la transidentité et du transgenre, on fait sans doute partie des émissions qui ont reçu le plus de transgenres dans le paysage audiovisuel. Ali Aguado, homme transgenre qui a porté son enfant, Alexia Serins, la première joueuse de rugby transgenre, Lily, une enfant transgenre. Et là aussi, il y a eu beaucoup de gens qui étaient mécontents de voir un enfant transgenre sur un plateau de télévision. Ça, il y a eu un débat là-dessus. Mariko, la première transgenre. J'ai toute une liste d'invités transgenres. Donc sur ce sujet-là, je pense qu'on est irréprochable.
Marc Menant, en quoi sommes-nous dans l'information, le divertissement ou l'idéologie ?
C'est quand même extraordinaire. La conclusion, après un temps de latence, un temps de réflexion, nous sommes irréprochables. Comme si traiter du transgenre, c'était quelque chose de tout à fait normal, qu'il n'y avait pas là d'interrogation à avoir sur le principe même de l'éthique journalistique. Le transgenre, ça concerne en traitement à peu près 2000 personnes par an. Et ce ne sont pas des traitements anodins. C'est-à-dire que déjà, pour les plus jeunes, et pour le moment où on commence des traitements, dès l'âge de 10 ans, 12 ans, on a des bloqueurs de croissance. Ensuite, vous avez des oestrogènes ou de la testostérone, qui sont infiltrés pour permettre le changement de sexe. Avec tout ce que cela a de conséquences. Vous savez, quand on prend un traitement, ce traitement a des effets secondaires. Alors, les grands spécialistes aujourd'hui disent qu'il y a de grands risques de cancer, qu'il y a des risques cardiovasculaires, qu'il y a des risques de thrombose. Les risques sont multiples. Et ça nous vient d'Angleterre, la dernière expérimentation qui a été faite chez les jeunes, c'est une diminution du QI. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, vous vous placez dans une situation où une personne en pleine santé sera condamnée à un traitement à vie. Car, quoi qu'il arrive, votre origine qui est liée aux chromosomes, les chromosomes, ils ne vont pas changer.
Est-ce que vous pouvez rester peut-être plus un peu sur l'audition, plus que...
Non, mais pourquoi je dis cela ? Parce que quand vous faites venir une enfant de 8 ans sur un plateau de télévision, que vous faites applaudir cet enfant de 8 ans...
Qui a fait ça ?
Yann Barthès, c'était en 2020. Et avec le public qui se dresse, qui se met debout. Et ils disent... Et d'ailleurs... Monsieur Laurent Bon dit, ça avait fait un enfant, les gens étaient mécontents de voir un enfant transgenre sur un plateau de télévision. Bon, il y a un débat là-dessus, mais ce n'est pas un débat, c'est une question fondamentale. Aujourd'hui, que disent les pédopsychiatres ? Que disent les psychologues ? C'est qu'il y a une sorte de contagion par Internet. Il n'y a pas un adolescent qui ne connaissent pas des problèmes d'identité par rapport à son corps. Tout à l'heure, j'ai donné des petits chiffres comme ça. Il faut savoir que chez les filles de 13 à 17 ans, on a une augmentation de 1500% de désir de changement
donc
de sexe.
Donc pour vous, ils sont pas dans leur rôle. Ils sont dans.
Ben non, ils sont pas dans leur rôle.
Ils sont pas dans leur rôle, par exemple, d'information.
Ben c'est pas de l'information. L'information, les questions que cela pose. Là, vous allez toujours dans une sorte de merveille. On vous dit, ben voilà, vous, à un moment donné, vous vous sentez mal. Mais tous les gamins, tous les ados se sentent mal. Et que se passe-t-il en Suède, par exemple, et en Angleterre? En Suède, le principal hôpital, qui s'appelle le Karolinska, qui dépend de l'Institut Nobel. Eh bien, cet hôpital a décidé d'arrêter le traitement chez les plus jeunes, parce qu'on s'aperçoit du désastre mental que ça fait. Et en Angleterre...
Mais pour vous, donc ils sont dans l'idéologie... Et
pas c'est l'idéologie pure de... Il n'est pas question de remettre en cause les transgenres. C'est la manière dont les choses sont présentées. Et de faire en sorte, c'est un public jeune qui est chez eux, et de dire, mais c'est normal, et écoutez, si vous ne vous sentez pas bien, il faut pouvoir avoir cette transformation. C'est ça, quand vous avez un enfant de 8 ans, c'est de la maltraitance. Qu'un enfant de 8 ans ait des doutes. Mais il y avait dans le Figaro, il y a quelques mois, un article qui montrait comment en Suède, il y avait des revirements, et une femme qui raconte l'histoire de...
Et puis on en avait d'ailleurs parlé sur ce plateau aussi, de ce bloqueur. C'était avec vous qui avez fait une chronique là-dessus. Et selon vous, Mathieu Bocoté, c'est de l'idéologie aussi ou bien...
C'est très clair, c'est la manière dont répond le producteur de l'émission. Il nous dit, regardez à quel point nous sommes irréprochables moralement sur cette question. Voilà notre bilan transidentité. Regardez à quel point nous sommes irréprochables. Et il s'agit dans leur esprit d'en faire la promotion, alors que sur le mode, c'est une vraie question aujourd'hui, on en parle beaucoup, il y a matière à avoir débat autour de cela, mais Quotidien était dans la promotion parce que c'est la ligne éditoriale de l'émission, nulle surprise.
Marc, j'aimerais vous entendre sur un autre sujet aussi, même sans RN en plateau, le pluralisme est respecté, se défend au quotidien à l'Assemblée nationale. Ils ont expliqué qu'ils se sont fait sévèrement agresser par le Rassemblement national, donc ne les invite pas, mais n'ont jamais porté plainte, pas de plainte, pas de condamnation, on écoute.
Je disais que c'était ironique dans la mesure où votre présidente de groupe nous a traités de clowns et que voilà. Donc c'est oui, je pense qu'il y a une forme d'ironie. Écoutez, sur la question, je sais. Les condamnations, non, ça a été documenté, ça a été diffusé. J'imagine que vous avez vu les images. On n'a pas porté plainte. On considère que le pouvoir que l'on a de montrer ce qui se passe, des relations entre nous, c'était suffisant. On n'a pas porté plainte, mais c'est des actes violents. Vous les connaissez, monsieur le député, j'imagine. Vous les avez vus. Non.
Monsieur le président, du coup, vous utilisez votre droit de rebond. Allez-y.
Je note des choses que vous jugez graves, zéro plainte, et de l'autre côté, zéro condamnation. Je le note, c'est intéressant de le noter ainsi.
Réaction, Marc Menant, sur notre tour de table sur le sujet.
Oh bah déjà, clown, si c'est une insulte, alors là... mais ce qui est intéressant, c'est que M. Bond dit, nous avons le pouvoir. Et leur pouvoir, c'est quoi? C'est de dire, nous utilisons le temps de parole. Comme si le temps de parole... une quantité numérique montrait que l'on était dans le pluralisme. Il suffit de prendre des enregistrements, de sortir des phrases sur lesquelles ensuite on raille et de dire, bah, vous voyez, nous avons respecté. Or, c'est de la manipulation. C'est véritablement la manière cynique de faire croire que l'on est dans l'objectivité alors qu'on est simplement dans un désir de... pratiquer, là encore, un prosélytisme.
C'est intéressant parce que vous avez retenu le mot pouvoir. Charlotte Dornelas se fera un tour de table là-dessus parce que le pouvoir vient de la fréquence qui a été donnée justement par l'État. Et utiliser cette fréquence en termes de pouvoir et le revendiquer. C'est ce que disait Marc Menant. Encore retenez-vous de façon générale aussi de cette audition.
Mais je retiens, vous savez, la dernière fois, quand les journalistes de CNews étaient interrogés, on avait découvert un amour du débat qu'on ne connaissait pas aux gens qui étaient en face d'eux. Ben là, aujourd'hui, j'ai découvert un amour de la liberté que les gens de Quotidien n'ont revendiqué que pour eux-mêmes. C'est un peu ce que nous racontait Mathieu au moment où Guillaume Meurice se prend une tempête mesurée par rapport à ce que d'autres ont pris dans la figure, notamment par le biais de Guillaume Meurice et ses amis. Et là, tout à coup, il découvre des principes. mais des principes qui sont mouvants, des principes qui ne s'appliquent qu'à eux-mêmes. Et on a vu dans cette même audition les gens se défendre avec des principes qui ne tenaient plus dans la même audition pour d'autres journalistes qui, eux, n'ont pas le droit de gérer leur antenne comme ils veulent, qui, eux, n'ont pas le droit d'avoir une ligne éditoriale et qui, eux, en l'occurrence, sont accusés d'enfreindre le pluralisme, non pas parce qu'ils refusent d'inviter des gens comme Quotidien, mais parce que des gens refusent de venir sur leur plateau. Moi, au bout d'un moment, mon sens de logique basique ne tient plus, en fait. Je n'y arrive plus, vraiment.
Guillaume Bigot, vous vouliez réagir tout à l'heure aussi.
En tout cas, la réaction, c'est parce qu'on s'attendait à ce que M. Barthès, qui savait plus quoi dire, enfin, qui avait perdu ses notes, peut-être c'était le résultat, vous voyez, d'une équation différentielle assez sophistiquée, d'un raisonnement très complexe, d'une grande citation. Mais en fait, on se rend compte que c'était trois chiffres, simplement, qu'il aurait pu mémoriser très facilement. Peut-être c'était l'émotion, je ne sais pas. Non, ce que je veux dire, sur le fond, c'est qu'ils ont le droit d'avoir des opinions, une ligne éditoriale, des préférences politiques, c'est pas le sujet. En fait, le seul reproche qu'on peut leur faire, c'est de fabriquer un monde artificiel, une sorte de carnaval dans lequel il y a les bons et les méchants, et ils s'arrogent le rôle de bons. Mais ça ne peut tenir que s'ils sont protégés de la réalité. C'est-à-dire que si la réalité vient leur donner la contradiction, tout le carnaval s'écroule, c'est ça le problème. Et en fait, ça correspond à une catégorie socio-professionnelle de CSP+, qui bénéficie de la mondialisation, qui met sur le banc de la route 70% des gens, qu'ils traitent de cons, d'imbéciles, de salauds, de fascistes, etc. Et il ne faut pas débattre avec eux. Et donc tous ces gens-là, ces CSP+, se regardent comme dans un miroir, et ça ne peut marcher qu'avec des oreillettes, et que s'ils n'ont pas de contradiction.
Et ça ne peut tenir, comme vous le disiez effectivement, que s'il n'y a jamais de condamnation, jamais de sanction, jamais de remontrance aussi, Mathieu Bock-Côté.
Oui, et je note, vous avez tout à fait raison, ils sont protégés en fait. Ils sont protégés parce qu'au-delà de la logique, il y a l'idéologie. Hein, l'idéologie, et l'idéologie dit ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour toi, parce que le deux poids, deux mesures qui est revendiqué. Je note une chose, cela dit, et je me permettrai d'être sévère un instant. Les députés du RN étaient présents, ils auraient pu décider de questionner sérieusement, de questionner sévèrement. Ils ne l'ont pas fait. Et je ne comprends pas sur la question, parce que c'est fondamental. Quotidien revendique le droit de ne pas inviter des courants de pensée, des courants, des partis qui ont l'appui de millions de Français. Ils revendiquent le droit de discriminer politiquement.
Mais qu'est-ce que vous répondez, par exemple, sur le fait qu'ils répondent, ben oui, mais... vous nous agressez, on peut ne pas...
Non, un instant, mais ça, c'est une espèce de transaction un peu étrange. C'est-à-dire, en tant que telle, l'obligation de recevoir des gens de différents courants de pensée, c'est une obligation en soi. Ensuite, il y a évidemment un respect élémentaire. On n'attaque pas les gens dans la vie. Je note, soit dit en passant, parce qu'on parle de journalistes agressés, quand Sophie Binet dit « Je ne veux pas voir ce journaliste de CNews devant moi tant, sinon on va s'occuper de vous, finalement. » Ce ne sont pas ses mots, mais c'est ce qu'elle dit. La personne se porte à la défense du journaliste qui est présent parce qu'on décide qu'il porte une étiquette qui justifie son exclusion. Ces gens-là ne sont pas les amis de la liberté d'expression, ce sont les amis de leur liberté d'expression, mais certainement pas celle des autres.
Et j'aime bien ce que vous dites, liberté d'expression. On va finir par le petit sonore que moi j'ai bien apprécié de Ara Aprikian, qui est le directeur des programmes de TF1. Écoutez.
Je crois qu'il est très important aujourd'hui de défendre la liberté éditoriale. Je crois que c'est une des questions qui va être clé dans les années qui viennent. La défense de la liberté éditoriale me paraît quelque chose de primordial à défendre dans un contexte où, et notamment à la télévision, où on peut avoir un déclin du public avec un public qui va partir vers les réseaux sociaux, sur lequel cette capacité d'une information de qualité contrôlée, qui lutte contre les fake news, qui lutte contre les éléments de désinformation, va être de plus en plus en tension.
Absolument d'accord, ça c'est du bon sens. Voilà ce qu'on pouvait dire, on aurait pu parler encore pendant des heures. Pascal Praud va certainement continuer dans un instant. Restez sur CNews. Charlotte Dornelas, le proviseur du lycée Maurice Ravel, qui avait demandé à trois jeunes élèves de retirer leur voix, elle a quitté ses fonctions. On a appris ce soir en début d'émission que la jeune fille condamne les menaces de mort, qu'elle s'excuse en quelque sorte. Nous l'évoquions hier, le choc est tel qu'on a besoin de comprendre, d'autant que Gabriel Attal l'a reçu aujourd'hui même. En quoi un cap a été franchi ?
Alors, on reviendra sur les propos et les excuses de l'élève dans quelques temps, mais simplement sur les réactions et les raisons, et surtout les réactions qui ont accompagné ce départ du proviseur. Alors, le rectorat de Paris a fait savoir que le proviseur avait, je cite, quitté ses fonctions, évoquant, je cite encore, des convenances personnelles. C'est ça qui est sorti initialement. Et les convenances personnelles, en l'occurrence, un, ce proviseur a fait un courrier interne à l'établissement auquel tout le monde a eu accès, dans lequel il évoque sa sécurité et celle de son établissement pour justifier sa demande d'un départ anticipé, il devait partir à la retraite dans quelques mois. Deux, son successeur, nommé donc en urgence par le même rectorat, son successeur communique auprès de toutes les personnes de son établissement, les parents, les élèves, les professeurs, et ce successeur parle lui à son tour d'un départ pour, je cite, « raison de sécurité ». Le même rectorat évoque un peu plus tard, donc le même rectorat qui a parlé de convenance personnelle, évoque un peu plus tard, je le cite encore, un départ anticipé accordé, donc par le rectorat, au vu des événements qui ont marqué ces dernières semaines, de leur médiatisation et de l'impact qu'ils ont pu avoir sur lui. Donc déjà, il y a des impacts sur lui, je note, bon. Et les événements qui ont marqué ces dernières semaines, ce sont des menaces de mort. Ce n'est pas des événements pour convenance personnelle. Enfin, je veux dire, on croit rêver de l'utilisation de ces mêmes mots par le même rectorat dans un dossier où, en l'occurrence, tout le monde parle de raison de sécurité, ce qui est déjà une manière apaisée et non, mais de la part du proviseur lui-même. Moi, je vais vous dire, ça m'a crevé le cœur, en fait, de me dire, il part à quelques mois de la fin de sa carrière de professeur. Il a donné toute sa vie à l'école en France et il part quelques mois plus tôt comme un chien. Personne ne fait attention à son départ pour des raisons de sécurité, pour protéger son établissement, et ça n'émeut personne. Ça n'émeut pas grand monde. C'est-à-dire que les seuls gens qui ont réagi, on sent qu'on réagit pour gérer une communication de crise. Mais moi, vraiment, ça m'a fait de la peine, d'autant que ce professeur a passé des années à servir en Seine-Saint-Denis. Et en Seine-Saint-Denis, on sait que c'est des établissements qui sont compliqués. Il y a des sujets d'absentéisme scolaire, de niveau scolaire. Il y a beaucoup de sujets qui sont lourds dans ces établissements. Les professeurs le disent eux-mêmes. Et il a des états de service parfaits. Je pense qu'il pourrait avoir un peu plus de place, on va dire, dans le débat de ce pays, à la veille d'une retraite qu'il aurait pu prendre quand même un peu plus paisiblement que ça. Et le ministère de l'Éducation nationale, lui, qualifie la décision du professeur, donc par ailleurs on remet la décision entre les mains du professeur, de compréhensible au regard de la gravité des attaques dont il a fait l'objet. Donc en fait, il n'y a de doute pour personne sur la raison de ce départ-là, mais le rectorat communique sur des convenances personnelles. J'y reviens parce que franchement, j'ai relu 4 fois pour être sûr de ce que je lisais, des convenances personnelles. Bon, la réalité est donc la suivante. Ce proviseur quitte ses fonctions plus tôt que prévu, en raison des menaces de mort qui ont suivi le fait qu'il demande à 3 élèves de retirer leur voile,
d'appliquer la loi,
conformément à la loi française. Et les autorités le savent d'autant mieux que Gabriel Attal, vous l'avez dit, a annoncé qu'il recevait ce proviseur cet après-midi et que le ministère s'est empressé de préciser qu'ils avaient pris des mesures pour protéger le proviseur et l'établissement. Plusieurs équipages de police nationale avaient été mobilisés autour de l'établissement et par ailleurs une protection fonctionnelle lui avait été accordée, c'est-à-dire un accompagnement humain et financier dans ses démarches judiciaires notamment. Donc on sait que tout cet accompagnement existe, qu'il y a des mesures qui ont été prises, parce que quand même, après Samuel Paty, il y a quand même certaines réactions qu'on a un peu plus rapidement qu'avant. Et donc là, moi, j'aimerais quand même entendre le ministre de l'Éducation nationale, en l'occurrence, nous expliquer ce communiqué du rectorat, puisque je croyais qu'on était sorti du pas de vague. Alors là, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est même plus pas de vague. Là, on se cache derrière son petit doigt et on n'est même pas capable de dire qu'il part pour des raisons de sécurité. Encore, je cite, hein, c'est calme comme expression, et on nous parle de convenance personnelle. Donc j'aimerais quand même que le rectorat soit interrogé sur cette communication plus que douteuse.
Nous avons vu des établissements menacés, évacués, protégés. Nous avons l'impression, Charlotte Dornelas, d'une offensive de plus en plus inquiétante sur l'école. Comment la comprendre ?
Alors, on a vu les établissements scolaires, en effet, qui étaient la menace du terrorisme islamiste ces dernières semaines notamment. On l'a vu par le biais de ces menaces qui sont reçues, par le biais des menaces qui pèsent évidemment sur les professeurs. Et après l'assassinat de Samuel Paty et de Dominique Bernard, personne ne peut prendre le sujet à la légère, évidemment. Et par ailleurs, ils sont aussi l'objet d'une offensive islamique cette fois-ci, par le biais d'élèves qui sont simplement musulmans, qui sont conscients ou instrumentalisés par des réseaux que eux on peut clairement qualifier d'islamistes, et qui organisent la conquête notamment culturelle des établissements scolaires. Pourquoi ? Parce que les établissements scolaires, et la France le sait mieux que personne, sont le terrain privilégié de toutes les batailles culturelles du monde. Et d'ailleurs, ce dont on parlait juste récemment, même l'entrée dans l'école de toutes les associations sur tous les sujets idéologique nous le prouve en permanence. C'est vrai aussi sur ce terrain-là, et je dis ça parce qu'on a vu toutes ces vidéos sur la question de l'abaya, sur la question du voile, comment éviter votre prof islamophobe, comment éviter la loi islamophobe, comment éviter votre professeur, et on voyait des tutos, hein, clairement, pour expliquer comment se voiler sans que ce soit vraiment conforme à la loi, comment mettre une abaya en mettant une ceinture qui, comme ça, on ne peut pas expliquer que c'est une abaya. Donc il y a clairement une offensive qui est organisée. Et certains élèves sont parfaitement conscients de ce qu'ils font. D'autres le font par mimétisme culturel de leur environnement ou de certains de leurs camarades. Mais à la fin, le résultat est le même. Et ces deux sujets qui pèsent sur l'école, on va dire, sont différents dans la gravité, on va dire, de l'implication. Mais ils se nourrissent l'un l'autre. Et ils se nourrissent l'un l'autre pourquoi ? Les premiers s'insurgent. Et les premiers revendiquent. Et les premiers livrent en pâture un professeur, un proviseur. Et les seconds, eux, ils menacent et parfois ils tuent. Parce que c'est ça qui s'est passé avec Samuel Paty, c'est ça qui s'est passé avec Dominique Bernard, et c'est ça évidemment qui a poussé ce proviseur à quitter l'établissement pour sa sécurité, je le cite encore, et pour la sécurité de tout son établissement. Parce qu'on en est là quand même. Et après Samuel Paty, il est impossible de trouver la moindre excuse, ni à cet élève, ni à ses parents, puisqu'elle a des parents, puisqu'apparemment elle est partie, elle a quitté son BTS elle aussi pour aller rejoindre sa mère, et elle travaille donc dans l'école maternelle où travaille sa mère. Aujourd'hui, on a appris ça parce que RTL a joint cette jeune fille, elle cherche une alternance, elle nous dit « mais j'étais déjà désintéressée par mon BTS », enfin peu importe, c'est vraiment pas notre sujet aujourd'hui. Et maintenant qu'on a eu l'histoire, je rappelle quand même que l'histoire de Samuel Paty commence sur le mensonge d'une élève. Je vais revenir aussi sur la question du mensonge. Et par ailleurs, Dominique Bernard, c'est un ancien élève qui cherchait un prof d'histoire-géographie et qui a visé délibérément ce professeur-là. Donc non, il n'y a pas d'excuse, d'autant que, vous le disiez, cet élève explique qu'elle est désolée, qu'elle condamne les menaces de mort, et je la cite encore, c'est RTN qui l'a jointe, « C'était mieux qu'il parte. S'il ne se sentait pas en sécurité, moi, je suis passée à autre chose. » Je vous jure, cette phrase, je ne sais même pas comment c'est possible de la prononcer, vu les circonstances aujourd'hui. Et par ailleurs, au moment où il y a deux jours, parce qu'elle est passée à autre chose, mais il y a deux jours, elle faisait encore des vidéos pour expliquer, notamment en convoquant le CCIE, vous savez, cette résurgence à l'échelle européenne du CCIF dissous par Gérald Darmanin en France après l'assassinat de Samuel Paty. Ce CCIE, qui fait partie d'un réseau européen, en l'occurrence, qui reçoit des subventions de l'Union européenne. Je veux dire, nos problèmes, ils sont partout en même temps. Hein. Vraiment partout en même temps. Et elle faisait cette vidéo relayée par le CCIE en continuant à accuser le professeur et les médias qui ne relayaient pas la bonne version en l'occurrence. Donc moi, je veux bien qu'elle présente ses excuses aujourd'hui et qu'elle soit désolée pour ce professeur. Mais il y a deux jours, l'histoire de Samuel Paty, elle était connue de la France entière. Et l'engrenage après le mensonge de l'élève initial, c'était connu. Et le problème, c'est que cette offensive culturelle à l'école, elle est d'autant plus forte qu'elle est portée par des gens qui sont, par des gens qui portent cette culture-là et cette revendication-là avec une vivacité et une jeunesse et une fougue qui est complètement hallucinante. Et si, Mathieu en avait parlé la dernière fois, mais c'est la laïcité en l'occurrence, c'est le cadre et c'est la loi qui doit s'appliquer. Mais dans ce cadre-là, il faut absolument réaffirmer la France. Pourquoi la France ? Pourquoi la culture ? Parce qu'en face de nous, quand on vous impose une manière de vous vêtir, une manière de manger, une manière de se comporter, une manière des heures auxquelles prier, des jours où on ne va pas à l'école, ça s'appelle une culture entière, ça s'appelle même une civilisation différente. Et en face d'une civilisation, il faut en proposer une autre. Et quand vous avez une civilisation aussi vivante en face de vous et que vous n'opposez que de la repentance, et un enrichissement mutuel dans une immigration que vous poursuivez, alors vous êtes sûr de la manière dont ça va se terminer. Donc on ne peut pas juste mettre des policiers autour de l'école, c'est évidemment important pour la protection immédiate de tous les élèves et des professeurs, mais la question doit être un peu plus large que ça, et il y a plus qu'urgence là à se poser cette question-là.
Dernière question rapidement, Charlotte Dornelas, cette jeune élève, on en a parlé déjà, a accusé donc le proviseur de l'avoir frappé et continue d'ailleurs à le faire, même si elle a changé un peu sa version. Est-ce qu'il ne faut pas écouter aussi, elle, peut-être ce qu'elle dit ?
Vous savez, on parle souvent de la crise de l'autorité dans ce pays et on se demande comment la résoudre. La première chose dans l'autorité, c'est que les paroles ne se valent pas. pour le débat public. Je ne parle pas ici évidemment de la justice ni de l'enquête policière. Je parle dans le débat public quand vous avez un proviseur qui est en fin de carrière et qui a des états de service impeccables et une élève en face où il y a une chose dont tout le monde est sûr, c'est qu'elle a enfreint la loi dans l'enceinte de l'établissement. Vous ne prenez pas pour argent comptant ce que dit cette fille, parce que en l'occurrence, elle accusait le proviseur de l'avoir giflée, puis en fait, elle expliquait que, en fait, non, il l'avait prise par le bras de manière vive. Donc, en gros, elle l'accuse encore de l'avoir frappée. Elle a porté plainte pour infraction non suffisamment caractérisée. La plainte a été classée sans suite. Le proviseur, lui, sa plainte est en cours. Et quand bien même, il l'a attrapée par le bras de manière un peu radicale. Il l'a empoignée de manière un peu vive. Est-ce que ça mérite les menaces de mort qui suivent et que, je le répète, elle a alimenté par le biais de vidéos qu'elle a continué à alimenter ces derniers jours, malgré l'existence déjà des menaces de mort et de la mise sous protection de ce professeur.
Merci beaucoup Charlotte pour votre regard. Et suite à la réunion autour de Gabriel Attal la semaine dernière, préfet, proviseur, procureur seront rassemblés la semaine prochaine sur la sécurisation des établissements. Emmanuel Macron est au Brésil. Suite de sa visite d'État, il a remis la Légion d'honneur au chef amérindien Raoni, icône de la défense de la forêt amazonienne et des peuples autochtones. Mathieu Bocoté, ça a beaucoup fait réagir. Qu'est-ce que ça dit de la communication présidentielle et pourquoi ça fait réagir?
Premièrement, on peut croire, et j'y reviendrai dans un instant, qu'Emmanuel Macron cherche à s'extraire d'un contexte tragique pour se construire une légitimité nouvelle sur la scène internationale. Mais d'abord, quelques éléments sur ce que nous, sur le contexte. Raoni, donc, accueille, très heureux, je le comprends, d'avoir la Légion d'honneur, c'est un honneur immense, et il dit, s'inquiète devant Emmanuel Macron, qu'il est très inquiet que l'homme blanc continue à détruire la nature. Et il invite Emmanuel Macron à apporter son soutien pour qu'il n'y ait plus de terres indigènes rendues aux peuples autochtones. Rendre les terres aux peuples autochtones, aïe, 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 ça en Europe, ça passerait pas, mais bon, au Brésil, ça passe. Cela dit, autre élément, Emmanuel Macron donc mettra un peu d'argent là-dedans, c'est significatif, je crois que c'est 1 milliard, pour soutenir, encore une fois, une cause qui est tout à fait légitime, soit dit en passant, celle des peuples indigènes là-bas, la défense de la nature, de l'Amazonie, c'est une question fondamentale. Donc en soi, on comprend, il y a une légitimité là-dedans. Ce qui est plus étonnant, c'est le contexte qui est le nôtre. Guerre en Ukraine, Gaza, terrorisme islamiste, migration déstabilisante, mafia et narcotrafic. Alors, manifestement, c'est un contexte qui pourrait, théoriquement, pour un homme en responsabilité, qui pourrait le solliciter, qui pourrait l'amener à se dire, en ce moment, ma première tâche n'est peut-être pas, justement, au Brésil, mais c'est pour assumer que la France est une puissance nucléaire, une puissance qui compte dans le monde, est un pays qui connaît la submersion migratoire, qui connaît les narcotrafics, qui connaît les bandes, on voit ce qui se passe, un ensauvagement du pays, il pourrait croire que c'est important. Mais manifestement, la communication présidentielle, c'est un homme intelligent, Emmanuel Macron, qu'est-ce qui le pousse, justement, dans cette direction? On peut croire qu'il y a une stratégie internationale en définition ou redéfinition.
Alors c'est vrai, il y a une sorte de décalage. Quelle est la fonction donc de cette stratégie présidentielle?
Alors, mon propos n'engage que moi comme d'habitude, mais là encore un peu plus. Je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas un homme qui veut voir sa carrière politique s'interrompre en 2027. C'est un homme jeune, c'est un homme qui aime gouverner, c'est un homme qui est au premier plan et c'est un homme qui donc veut penser la suite. Pour certains, la suite, on la connaît. Ils s'en plaignent ici et là de temps en temps dans les médias. Ils se disent comment cet homme d'exception pourrait-il avoir un troisième mandat à la présidence de la République. Et ils se demandent de quelle manière. Est-ce qu'il y a une stratégie, une dimension constitutionnelle? Est-ce qu'il y a une possibilité pour lui de faire un troisième mandat? Reste à savoir si ça l'intéresse lui-même. Mais ce qui est certain, c'est qu'il veut poursuivre sa carrière politique, ce qu'il voit probablement comme un destin politique. Donc pour ça, il doit se construire une légitimité internationale détachée des enjeux tragiques dont nous parlions tout rapidement. Donc ça implique quoi? Les questions environnementales, des peuples premiers, faites la liste de tous ces enjeux nouveaux qui permettent probablement demain, si jamais se présentait un poste en succession à Mme von der Leyen, si c'était créé ce poste de président de l'Europe, je dirais pas secrétaire général de l'ONU, je souhaite à autre chose avec Emmanuel Macron que ce titre de gens qui peuvent... Secrétaire général de l'ONU, ce n'est pas très recommandable. Mais président de l'Europe, au fond de lui-même, est-ce que ce n'est pas le rêve qu'il porte d'être le premier président de l'Europe? Et de ce point de vue, est-ce que toute sa stratégie internationale dans les prochains temps ne consiste pas à le préparer et occuper cette prochaine fonction qui pourrait occuper sa cinquantaine? Ce n'est qu'une hypothèse, c'est une hypothèse bien personnelle, mais je me dis qu'un homme comme lui doit penser à la suite, et c'est probable que la suite, ça soit quelque part à Bruxelles.
Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Merci, Guillaume, Charlotte, Marc. Excellente suite de programme, l'heure des pros 2 sur CNews.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage, to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.